Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
C'est notre grand privilège ce matin de revenir à l'étude de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous arrivons rapidement à la fin de cette grande épître. Nous nous trouvons dans les versets 21 et 22 dans une série spéciale en trois parties intitulée « Un appel au discernement ». Permettez-moi de lire le texte de 1 Thessaloniciens 5, versets 21 à 22. « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » C'est un appel au discernement. C'est cet appel qui a incité notre étude, notre analyse et notre exhortation au discernement, je pense, au cours des dernières semaines. Ce matin, nous conclurons cette brève série. L'une des histoires grecques célèbres que la plupart d'entre vous avez entendue et l'histoire de la conquête de la ville de Troie. Les Grecs, souvenez-vous, ont assiégé la ville de Troie depuis plus de 10 ans. Ils ont été incapables de la capturer. En exaspération, un homme du nom d'Ulysse a décidé de construire un grand cheval en bois et de le laisser à l'extérieur des murs de la ville, ostensiblement comme cadeau aux Troyens invincibles. Et puis les Grecs sont partis avec leur bateau dans une défaite apparente, laissant ce cheval comme cadeau. Les Troyens, curieux et fiers, se sentaient assez confiants pour traîner le cheval à l'intérieur des murs, bien qu'un prêtre nommé Laocoon leur a demandé de ne pas le faire. Il a dit « Je crains les Grecs, même lorsqu'ils apportent des cadeaux. » Cette nuit-là, des soldats grecs se sont glissés hors du cheval, ont ouvert les portes de la ville et ont laissé entrer les autres soldats grecs qui ont conquis Troie. Les Grecs massacrèrent la population de Troie, pillèrent et brûlèrent la ville. Tout au long de l'histoire, depuis lors, le cheval de Troie a été le symbole de l'infiltration et de la tromperie, et pendant ces 2000 ans d'histoire, l'Église a embrassé de nombreux chevaux de Troie, des ennemis déguisés en cadeaux. Les Romains, vous vous en souvenez, étaient des polythéistes. Ils avaient un dieu pour la chasse, un dieu pour l'achat, un dieu pour la vente, un dieu pour les protéger en voyage. Ils avaient tous ces dieux. Eh bien, une fois que le christianisme a été affirmé comme la religion de l'Empire romain, il a fallu en finir avec tout cela. Mais plutôt que de prendre une position forte contre l'idolâtrie et une telle superstition, l'Église a simplement assigné les responsabilités qui appartenaient aux divinités romaines à des saints morts. Par exemple, au lieu d'avoir un dieu pour vous protéger lors des voyages, saint Christophe a assumé cette responsabilité, et vous avez eu la fusion de l'idolâtrie superstitieuse païenne romaine avec le christianisme. En violant les Écritures, les gens ne priaient plus un dieu romain, mais un saint mort, selon la requête. Le cheval de Troie de la religion romaine était autorisé à rester à l'intérieur des murs, en quelque sorte, du christianisme. Il s'est infiltré et a détruit la foi chrétienne. Au XVIIIe siècle, le rationalisme est venu en Europe. Pendant le temps du rationalisme, qui est aussi connu sous le nom de Âge des Lumières, sortant de l'Âge des Ténèbres, l'homme a cru qu'il pouvait résoudre tous ses problèmes avec son propre esprit. Il a commencé à adorer son esprit. Il était épaté par son esprit. Il estimait qu'il avait la capacité mentale de comprendre tout et de résoudre tous les problèmes. On croyait que Dieu n'intervenait pas dans les affaires des hommes, quand les hommes étaient extrêmement intelligents, car ils pouvaient gérer leurs propres affaires. Au mieux, Dieu avait créé le monde et l'avait abandonné. Et maintenant, c'était au tour des hommes. Ils ont décidé que, puisque l'esprit de l'homme était ultime, tout ce que l'esprit de l'homme ne pouvait pas concevoir ou comprendre était faux. Ils ont pris la Bible, et tout ce qui ne semblait pas rationnel, raisonnable, logique ou intellectuel a été éliminé. Et donc, tous les miracles dans la Bible ont été rejetés. Et puis, ils ont commencé à nier les grandes vérités spirituelles, surnaturelles, à propos de Dieu, le Christ, le Saint-Esprit. Le libéralisme théologique était la nouvelle mode. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église a ouvert ses portes et a tiré le cheval de Troie du rationalisme. de l'intellectualisme et de l'âge des Lumières à l'intérieur. Ils sont sortis, ont ouvert les portes, et l'endroit était inondé jusqu'à ce que l'Église ait complètement perdu sa foi, et que le protestantisme européen soit devenu libéral et mort. Aujourd'hui, l'Église ouvre encore les portes, et tire encore plus de chevaux de Troie, remplis d'ennemis trompeurs et dévastateurs. Le monde s'infiltre dans l'Église de plusieurs façons. Nous pourrions mentionner l'érosion des valeurs morales, l'acceptation de la rupture de la famille et le divorce comme des normes, la poursuite égoïste de l'argent et du statut, où l'Évangile trouve quand même sa place, l'Évangile de la prospérité. On pourrait citer le cheval de Troie du pragmatisme ou de la psychologie. Nous pourrions mentionner le cheval de Troie du mysticisme, des recherches intuitives de la vérité. L'Église a accepté une myriade de chevaux de Troie, et elle a laissé les armées d'ennemis entrer dans l'Église. C'est un stratagème satanique. Satan ne va pas forcer une entrée dans l'Église, monter à la chair par invitation, parce que les fidèles ne l'inviteront pas. Il ne va pas s'installer dans une église évangélique ou sur une chaîne de télévision ou une station de radio chrétienne pour vendre ses misérables mensonges et pervertir la doctrine ouvertement. Il ne va pas vendre ses mensonges comme étant contraires à la vérité. Il va venir avec des cadeaux, comme un cheval de Troie, et il fera quelque chose de subtil. Il commercialisera ses mensonges et sa subtilité trompeuse, attirant faussement les gens loin de la vérité de Dieu, dans une erreur destructrice. Il se mêlera à une petite vérité. Il le mettra dans la bouche de celui qui prétend parler pour Jésus-Christ. Il va y joindre des versets de la Bible. Il fera appel à l'égoïsme, à l'orgueil et à la chair des hommes, au nom de la bénédiction spirituelle. Et les multitudes vont involontairement, parce qu'elles sont sans discernement, être comme des moutons qui sont conduits à l'abattoir. Paul l'a dit quand il a écrit à Timothée, « C'est ainsi que cela va être. Soyez prêts. Dans les derniers temps, certains se retireront de la foi parce qu'ils ont prêté attention aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons, enseignées par des menteurs hypocrites. Il y aura de la tromperie, il y aura de l'hypocrisie. Dans 2 Pierre, Pierre dit la même chose. Les faux prophètes, les faux enseignants, présenteront des hérésies secrètement destructrices. Les gens suivront leur sensualité. Dans leur avidité, ils vous exploiteront. Ils seront gourmands, sensuels. Ils exploiteront par la tromperie. Il y a des millions de personnes à l'intérieur des murs de l'Église aujourd'hui qui ont été dévastées par des armées envahissantes et étrangères, des chevaux de Troie, qui ont été autorisées à entrer à l'intérieur des murs de l'Église. Maintenant, notre seule défense est d'être ferme et fort dans la connaissance de la vérité. Notre seule défense est de discerner et de discriminer. Le problème est que nous vivons dans une période où le climat de l'Église est intolérant à tout cela, où la discrimination et le discernement ne sont pas populaires. Le climat dans l'Église aujourd'hui est actuellement intolérant envers le discernement. Il veut que tout le monde montre l'amour. Il veut mettre l'amour, l'unité et des attitudes qui ne divisent pas en avant. Ne dites rien contre un frère. Ne dites rien qui va diviser. Chacun a le droit de croire à ce dont il veut croire. Soyons aimants. Soyons unis. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Satan savait que nous n'achèterions pas la théologie libérale. Alors, il nous a vendu une herméneutique libérale, qui finira par nous amener à leur théologie. Au lieu d'interpréter la Bible sur la base d'une compréhension historique, grammaticale et contextuelle du texte, nous développons une tolérance pour chaque passage, au nom de l'amour, de l'unité et d'un esprit qui ne cherche pas la division. C'est un poison mortel pour la vérité. Maintenant, certaines personnes vont même attaquer. Si vous essayez de mentionner des noms, de mettre des limites ou de dire « Ceci est vrai, ceci est faux. » Vous êtes discriminant et discernant, et certains vont même vous attaquer. Habituellement, quand ils attaquent, ils se servent des passages de l'Écriture qui disent « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Avez-vous entendu cela? 1 Chronique 16 et Psaume 105. Ces deux chapitres incluent un verset à cet effet. « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Vous devez savoir qu'une bonne compréhension de ces versets ne suit pas la façon dont ils sont utilisés aujourd'hui. Toucher signifie blessure physique en hébreu, faire des dégâts corporels. Oint, un rapport avec les rois. Ce qui leur est dit est, ne tuez pas le roi, ne faites pas de lésions corporelles au roi. La deuxième partie du verset, ne fait aucun mal à mes prophètes. Le mot mal signifie mal physique, blessure physique. Mes prophètes sont ceux qui enseignent ma parole. Un vrai prophète était celui qui avait raison à 100% quand il prédisait. Ne nuisez pas physiquement à un vrai prophète, et ne nuisez pas physiquement à un roi. C'est loin de l'évaluation de la théologie d'un hérétique qui n'est pas un vrai prophète ni un roi. La douceur sur les faux enseignants a empoisonné le printemps de l'Église. Maintenant, je veux être très franc avec vous et vous aider à comprendre cela. Il y a aujourd'hui une tolérance pour toutes sortes d'aberrations dans l'Église. Et elle est donc remplie de chevaux de Troie, permettant aux armées envahissantes de confondre et de détruire. J'ai toujours cru, et je continue de croire aujourd'hui, que personne n'a fait plus pour nuire à la morale de l'Amérique que Phil Donahue, au-delà et au-dessus de tout le monde. Cet homme a vraiment été le moteur de la désintégration de la morale américaine. Vous dites pourquoi? Ce n'est pas nécessairement à cause de ses points de vue. C'est très difficile de savoir ce qu'il croit vraiment à propos de quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il parle de ce qu'il voit. C'est parce qu'il propose une plateforme à toutes les aberrations. Il a, sur son programme de télévision depuis sa création, un forum pour toutes les aberrations bizarres, déviantes, perverties, que cette culture n'a jamais concoctées. Ce qu'il a fait, au lieu de les présenter comme une aberration ou une perversion, il les a réduites à rien de plus qu'une curiosité. C'est une curiosité originale. Et donc, il élimine le choc et le traumatisme de la perversion. Il le réduit à quelque chose qui fait rire, quelque chose de peu de conséquence, comme une foule d'anciennes ménagères se promenant dans le studio en se moquant par leurs blagues stupides d'une certaine perversion. C'est réduit à un détail banal, de sorte que la morale ne soit qu'un détail sans importance, de sorte que l'aberration soit de même. Ce n'est qu'une curiosité. Et il faut accepter et comprendre qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et n'est-ce pas drôle? N'est-ce pas étrange? Et n'est-ce pas bizarre? Mais jamais n'est-ce pas faux? Jamais. Eh bien, si vous passez au monde chrétien, je serai très franc avec vous, en disant que quelqu'un comme Paul Crouch et Yann et le réseau appelé TBN est à l'Église ce que Phil Donahue au monde. Ils ont créé un environnement à la télévision qui donne un forum à toutes les aberrations théologiques existantes. Vous pouvez regarder et voir tout, du bon et du juste au pire de ce qui existe. Mais ils ne font jamais un jugement de valeur sur quelque chose, jamais. Ce qui s'est passé, c'est que leur forum, qui a été créé pour chaque aberration théologique d'une manière sans discernement, a littéralement adouci la capacité de l'Église à discerner. Tout est toléré, tout est accepté, chaque point de vue est exact. La lubie de tous est bonne. Et tant que nous ne disons rien de négatif à l'égard d'autrui, nous maintenons l'esprit d'amour et d'unité en Christ, ce qui, comme je l'ai dit plus tôt, est l'herméneutique du libéral. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à rejeter la Trinité, la divinité du Christ, la divinité du Saint-Esprit et toutes les autres choses qu'ils nient. Aujourd'hui, l'Église est remplie d'erreurs et de confusions. C'est pourquoi il est si essentiel pour nous de discerner, même si ce n'est peut-être pas populaire en ce moment. Nous obéirons à ce que Paul dit au verset 21. Nous examinerons tout avec attention. Nous tiendrons ferme à tout ce que nous trouvons bon. Peu importe ce que nous trouvons mauvais, sous n'importe quelle forme, nous allons le rejeter. Malgré toute la moralité suite aux chevaux de Troie, l'Église continue de les tirer vers l'intérieur. Nous essayons donc de vous aider à réfléchir un peu à cette question de discernement. Maintenant, nous continuerons avec des questions. Vous vous souvenez-vous de la première question? Pourquoi n'y a-t-il pas de discernement? C'était notre première question, et je vous ai déjà donné la réponse. Je vais simplement l'examiner brièvement. Pourquoi n'y a-t-il pas de discernement? Je vous ai donné des raisons. Premièrement, un affaiblissement de la clarté et de la conviction doctrinale. Nous avons examiné cela en détail. La doctrine ne montre pas l'amour. La doctrine n'est pas considérée comme pertinente. Deuxièmement, l'incapacité à être antithétique. De nos jours, ce n'est pas bien de vouloir absolument être noir et blanc. Nous sommes dans la relativité. C'est un échec de dire « Eh bien, voici une thèse. Je propose une antithèse qui dit que c'est faux. Le christianisme pertinent est maintenant relatif, subjectif. C'est expérientiel. Tout chrétien doué de discernement peut voir cela. Il y a des années de cela, C.S. Lewis a écrit le livre « Tactique du diable », qui est une rencontre imaginaire avec Screwtape, le démon en chef, qui développe une stratégie pour détruire l'Église. Il essaie de former un autre démon, du nom de Wormwood, sur la façon de détruire l'Église. Dans un petit scénario, Screwtape, instruisant Wormwood lui dit « Voici comment rendre les chrétiens totalement confus. Gardez leur esprit hors de la simple antithèse entre le vrai et le faux. C.S. Lewis avait entièrement raison. Si vous pouvez amener les chrétiens à abandonner l'enseignement antithétique critique, la connaissance de la différence entre le vrai et le faux, ils seront tellement confus que vous pouvez leur enseigner absolument n'importe quoi. Troisièmement, une autre cause est la préoccupation avec l'image et l'influence comme clé de l'évangélisation. Nous avons parlé du fait qu'il y a ceux qui disent que nous devons adoucir notre message, éliminer toute l'infraction de l'évangile, rendre les cultes confortables et agréables pour les pécheurs incrédules, éliminer ce qui pourrait les offenser, les confronter, les condamner, les juger ou les convaincre, et chercher la popularité avec ceux qui rejettent le Christ. Si nous voulons construire l'Église, nous devons être populaires avec le monde. L'image et l'influence sont les problèmes. Nous devons sortir et commercialiser nos offres, afin que les baby-boomers, les post-baby-boomers, et maintenant le nouveau groupe de l'effondrement de la natalité vont les aimer. Et si nous pouvons les emballer pour qu'ils les aiment, ils aimeront aussi Jésus. Quatrièmement, l'incapacité d'interpréter correctement les Écritures. Nous avons parlé de cela la dernière fois. Vous avez des prédicateurs et enseignants instruits, sans instruction et ignorants, qui ont leur théologie propre. Même s'ils parlent, ils ne savent même pas ce que c'est, jusqu'à ce que cela sorte de leur bouche. Il y en a d'autres qui sont formés, mais ne parviennent pas à utiliser les outils pour interpréter, et optent pour les récits et la psychologie de la prédication, et ainsi de suite. Vous en avez d'autres qui sont trop paresseux pour travailler avec diligence, pour appliquer des compétences, afin de répartir correctement la parole de vérité. Et certains croient que la vérité vient de la subjectivité. Ainsi, vous avez vraiment baissé la prime sur le processus d'interprétation des Écritures, et l'Église est faible dans sa capacité à interpréter la Bible correctement. Cinquièmement, une autre cause de cette catastrophe dans l'Église est le manque de discernement. Nous échouons avec la discipline dans l'Église, et nous vous avons dit que lorsque vous disciplinez le péché dans une Église, vous mettez un mur entre l'Église et le monde, et c'est clair que le monde est là. L'Église est là aussi, et vous pouvez distinguer les deux. Si vous n'êtes pas discipliné dans l'Église, le monde entre dans l'Église, ils se mélangent ensemble, vous ne pouvez pas différencier l'un de l'autre, et alors vous ne pouvez mettre en place une discipline dans l'Église, parce que qui allez-vous discipliner? Vous abattez le mur entre le monde et l'Église. Cette réticence à traiter fermement, fortement et publiquement avec le péché, conduit à un manque de discrétion et de discernement dans l'Église. Et enfin, l'immaturité spirituelle. Nous avons parlé du fait que les chrétiens immatures ne peuvent pas discerner. Ils n'ont pas développé leur sens pour discerner entre le bien et le mal. Ils sont comme des enfants jetés et transportés par chaque vent de doctrine. Maintenant, ce sont les causes du manque de discernement spirituel. Prenons une deuxième question, puis une troisième ce matin, et terminons notre série. La deuxième question est « Qu'est-ce que le discernement spirituel ?» D'accord, nous avons vu que nous ne l'avons pas. Prenons une définition. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est? Avant de vous donner une définition simple, permettez-moi de dire que tout pasteur, tout professeur de la Bible, tout professeur qui enseigne la parole de Dieu, doit être tenu pour responsable de la réponse à cette question. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Cela devrait certainement être à chaque examen d'ordination. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Et quelle est l'importance de celui-ci? Pourquoi? Parce que c'est notre métier. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas différent d'un médecin dont le métier est de discerner. Un médecin efficace doit être capable de regarder physiquement la santé d'une personne, de comprendre de manière appropriée ses symptômes, pour découvrir le problème et savoir ce qu'il faut lui donner comme traitement. Il s'agit de la compréhension, de la lecture des symptômes, de l'évaluation de certains facteurs dans la vie, de la constatation de ce qui ne va pas et de la détermination de ce qui est juste au sujet de ce qui ne va pas. Afin de pouvoir le faire correctement, nous devons diagnostiquer et trouver un remède en tant que médecin, ou personne dans le domaine de la santé médicale. Il en va de même pour le ministère. Notre responsabilité est de discerner. C'est pour discerner la vérité de Dieu et son application dans la vie spirituelle. Nous devons être bien formés et compétents en matière de discernement. Maintenant, nous devons faire cela afin de pouvoir évaluer la vérité et l'erreur, et afin de pouvoir appliquer la vérité de manière appropriée. C'est notre métier. Toute personne dans le ministère qui ne pratique pas le discernement échoue à ce qu'il a été appelé et formé à faire. C'est notre travail. Permettez-moi de vous donner une définition simple. Le discernement est l'habileté de séparer la vérité divine de l'erreur et de la demi-vérité. C'est l'habileté de séparer la vérité divine de l'erreur et de la demi-vérité. À cela, nous avons été appelés. Dans 1 Timothée, vous vous souvenez que Paul lui écrit et qu'il nous donne des consignes que nous devons savoir si nous sommes dans le ministère. Il dit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » 1 Timothée 4, verset 6. C'était une sorte d'épithète décrivant la philosophie contemporaine. Vous devez connaître la différence entre les choses qui descendent du pipeau du monde et la vérité de Dieu. Vous devez le savoir. Il faut pouvoir distinguer cela. Si vous voulez être un bon serviteur de Jésus-Christ, vous devez être continuellement nourri des paroles de la foi et de la saine doctrine et capable de reconnaître la camelote. Vous devez pouvoir le faire. Plus loin, dans 1 Timothée 4, verset 13, il dit « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Dans le verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Vous devez être séparé, vous devez connaître la vérité, vous devez distinguer la vérité de l'erreur. Allez à 1 Timothée 6, au verset 2, où il dit « Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. » Et après tout cet enseignement, il dit, et cela inclut tout ce qui se trouve au verset 5, « Enseignez et prêchez ces principes. » Et le verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, maintenant, vous devez être en mesure de distinguer si quelqu'un arrive avec quelque chose de différent. Il est vaniteux. Il ne comprend rien. Il conteste et discute sur les mots. Il produit de l'envie, des conflits. Il a un langage abusif, des soupçons méchants, des frictions constantes, et il continue. Vous devez vous tenir à une doctrine solide, enseigner et prêcher ses principes, et n'importe qui, avec n'importe quelle autre chose qui n'est pas en accord avec cela, est vaniteux et ne sait rien. C'est un appel au discernement. Au verset 13, Paul charge Timothée à nouveau, puis au verset 14, « Garde le commandement. » Je suppose que le commandement embrasse toutes les Écritures révélées. Garde-le, protège-le, afin qu'il reste sans tache ni reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus. Ensuite, descendez, au verset 20. Ô Timothée, maintenant il se passionne. Garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Timothée, garde la vérité, garde-la, et sache la différence entre la vérité et l'erreur mondaine, le bavardage vide et la connaissance faussement appelée. Vous devez faire cela. C'est le discernement. Ce sont des mots forts, bien-aimés, pour préserver la vérité, sans douceur et pure, pour garder le trésor contre ceux qui peuvent le corrompre. Ainsi, tout le monde dans le ministère est appelé et réquisitionné à la tâche de développer et d'affiner les compétences pour séparer la vérité divine de l'erreur et la demi-vérité. Maintenant, ce pourrait être utile de faire quelques études d'étymologie sur les mots qui sont utilisés dans la Bible aussi brièvement. Deux mots clés découlent des Écritures quand on parle de discernement. Le premier est le mot hébreu « bain » et le deuxième mot est le mot grec « diakrino ». Le terme hébreu « bain » est utilisé 247 fois dans l'Ancien Testament et a été traduit de diverses façons. Parfois traduit par « discernement », parfois par « distinguer », parfois par « comprendre ». Mais il a l'idée de se séparer. Il est lié au mot « baïen » qui signifie « espace entre » et il est même lié à la préposition qui est « ben ». « Baïen »,« ben », »,« bain », cela signifie « séparer » ou « entre ». Le mot donne donc l'idée de pouvoir mettre de l'espace entre les choses. Vous ne pouvez pas les mélanger. Une chose est ici, et l'autre est là-bas. Elle ne se mélange pas. Cela signifie que vous pouvez séparer deux réalités non modifiables. Et c'est un processus de séparation dont parle le discernement. Séparer quelque chose d'une autre parce qu'il y a une différence et qu'il faut faire une distinction. Le discernement, nous disons, c'est l'habileté à atteindre la compréhension et la connaissance de la vérité de Dieu par un processus de séparation. Je mets cela en pratique tout le temps. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, je dois mettre le filtre et séparer ce qui n'est pas vrai de ce qui est vrai. Ce processus de séparation est le discernement. Encore une fois, c'est le concept d'antithèse. Maintenant, le terme grec est « diakrino ». Cela signifie « se séparer ». Il est souvent traduit par « juger ». Mais que fait un juge? Un juge est un juge en théorie, parce qu'il a la capacité d'entendre une quantité massive d'informations, de lire une quantité massive d'informations, et de séparer quoi? La vérité de l'erreur, et de faire un jugement. C'est ce que fait un juge. Il discerne. Encore une fois, le mot « diakrino » a l'idée de se séparer afin qu'on puisse faire un jugement ou prendre une décision. Ainsi, le discernement spirituel est la capacité de séparer la personne de Dieu, l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, la vérité de Dieu de tout le reste. C'est la capacité de connaître cette volonté parfaite, bonne et acceptable de Dieu, dont Paul a parlé dans Romains 12 au verset 2, qui se fait par le renouvellement de votre esprit. C'est cette capacité que l'apôtre Paul a écrit dans Colossiens 1, verset 9, quand il a dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je veux que vous connaissiez la volonté de Dieu pour discerner la vérité de toutes choses. C'est la clé. Faire un jugement, faire une séparation, faire une distinction. » Alors nous sommes, en tant que chrétiens, appelés au discernement. Et quand il dit « examiner tout », c'est séparer l'erreur de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la vérité. Il veut qu'elle soit gardée et transmise à la génération suivante. Mais Satan veut non seulement exploser la vérité, mais infiltrer la vérité. Avec quoi? Avec l'erreur. Envoyer des chevaux de Troie, afin que les portes puissent être ouvertes et que l'ennemi se précipite dans les murs de l'Église et que vous ayez un chaos absolu. Maintenant, cela nous conduit à la dernière question, et peut-être la plus importante. C'est ainsi que je peux devenir une personne douée de discernement. J'espère que vous êtes motivé pour en devenir une. La question est de savoir comment faire. Je vais vous donner quelques étapes simples. Première étape, le désir, l'envie. Cela commence par là. Si vous n'avez pas envie de discerner, croyez-moi, vous ne le ferez pas. Si votre seul désir est d'être heureux, sain, riche, prospère, sage, si votre seul désir est d'être satisfait et confortable, si votre seul désir est de propager ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, si votre seul désir est de vous assurer que votre vision des choses soit entendue sur tout, vous ne serez jamais une personne douée de discernement. Le discernement sort du désir né de l'humilité. Une humilité qui dit « Je ne sais pas, et je ne fais pas confiance à mon propre jugement. Je dois discerner. C'est un désir qui vient du fait que je crois tellement dans la parole de Dieu et la vérité de Dieu, et je comprends tellement clairement les attaques de Satan et son désir d'introduire une hérésie damnable, que j'ai besoin d'être une personne perspicace. Je sais que j'ai une capacité de déception. Je peux être déçu. Je sais que je ne peux pas faire confiance à mes propres sentiments, à mes envies, à mes émotions, à mes pensées et à mes concepts. Je dois discerner. Je sais que je peux être attiré vers une fausse doctrine. Je dois discerner. Je sais que je peux contrôler ma théologie par mon désir égoïste. Je dois discerner. Et par l'humilité de votre propre ineptie et par la reconnaissance de votre propre faiblesse, vous dites « J'ai envie de discerner. Vous êtes sur le chemin. C'est la première étape. » Proverbe 2. Permettez-moi de vous le lire. Proverbe 2, verset 3. Oui. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras. Ensuite, vous l'obtiendrez, et vous pourrez discerner ce qui est vraiment la crainte du Seigneur et la connaissance de Dieu, quand vous le voulez, quand vous le désirez, quand vous avez faim pour cela. C'est la motivation. Quelque part, le long de la ligne, j'ai eu ce désir. Je ne connais pas tous les composants. Mais quelque part, durant ma vie, j'avais envie de connaître la vérité de Dieu, et je ne suis à ce jour toujours pas satisfait. Quand je prends une lecture, ce processus de séparation passe dans ma tête. Vous pouvez voir des livres que j'ai lus en fouillant dans ma bibliothèque, et vous verrez de petites choses dans la marge. C'est vrai, oups, point d'interrogation. D'où vient cela? Ce n'est pas exact. Des lignes rouges. Je lis de cette façon. Je pense de cette façon. Parce que je désire trop connaître la vérité. J'ai cette connaissance qui s'implante directement dans ma vie. Elle affecte la façon dont je vis, s'impose directement dans la vie de tous ceux qui m'entendent. Et ensuite, elle affecte la façon dont ils vivent. C'est donc une responsabilité incroyable. J'ai une haute vision de l'écriture. J'ai le devoir de la répartir à juste titre. J'ai donc besoin de discerner. Et encore, cela est né de l'humilité quand on dit « Je ne peux pas le savoir par moi-même. Je n'ai pas toutes les réponses en moi. Mais je sais que Dieu veut que je sache sa vérité. Et je sais qu'il veut que je partage correctement sa parole. Et je sais qu'il veut que je discerne et que je poursuive le ministère qu'il me confie. » Deuxièmement, la prière. Bien sûr, voici l'équilibre de la dépendance envers le Seigneur dans le processus. Vous pouvez avoir toutes les envies dans le monde, mais vous devez encore dépendre de lui. Il y a une illustration dans 1 Roi chapitre 3, verset 9. Quand Salomon a prié Dieu, il dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Salomon dit « Je veux pouvoir discerner. Quelle belle demande ! Sinon, dit-il, je ne pourrai pas accomplir ce travail. Je dois avoir du discernement. » Le verset 10 continue. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu a été béni par sa demande de discernement. Dieu lui a dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, le discernement, la possibilité de savoir séparer le bien du mal, le juste du faux, et tu n'as rien demandé pour toi-même. » Voilà le problème de base. Les gens qui cherchent le discernement sont disposés à s'ouvrir vers les autres. Vous qui avez été élevés dans le monde chrétien d'aujourd'hui, vous voyez cet immense égoïsme. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à avoir le discernement. Ils ne sont intéressés que par la possibilité de se procurer ce dont ils ont besoin. Dieu dit, tu n'as pas demandé quelque chose pour toi-même. T'aurais pu demander une longue vie. T'aurais pu demander quelque chose au nom d'un groupe. Un groupe de foi, par exemple. Un groupe de prospérité. Un groupe de longue vie. T'aurais pu demander de la richesse. Ce qui est certainement un souhait de beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu fais partie de ce groupe. T'aurais pu demander la vie de tes ennemis. T'aurais pu être parmi les vengeurs qui cherchent à vaincre les autres. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as rien demandé pour toi-même. Mais tu as demandé du discernement. Tu veux comprendre la justice. Voici, j'ai fait ce dont ta demande. Je te donne un cœur plein de sagesse et de discernement. De sorte qu'il n'y a eu personne comme toi auparavant, et personne non plus après toi. C'est sensationnel. C'est vraiment une illustration de Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il, quoi, la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. L'équilibre, bien sûr, en termes de désir, vient de la prière. Je peux désirer le discernement, mais je dois dépendre du Seigneur pour le processus de discernement. Comme Salomon par la prière. Je prie Dieu de me faire connaître. Je prie que Dieu m'apprenne le discernement, qu'il me l'accorde. Troisièmement, dans cette petite série d'étapes pour devenir une personne perspicace, d'abord un désir, ensuite de la prière en continu, en mettant ton désir devant le Seigneur. Et cela aussi reflète votre humilité, car il faut reconnaître que vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin, mais Dieu l'a. Troisièmement, apprenez des hommes talentueux. Vous trouverez dans votre vie et dans l'Église qu'il existe des gens qui ont la capacité de discerner. En fait, c'est très intéressant de regarder le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Et dans la liste des dons spirituels donnés dans ce chapitre de 1 Corinthiens 12, verset 10, il mentionne le don ou la capacité de distinguer les esprits, le discernement des esprits. Maintenant, cela est assez intéressant, parce que l'Écriture ne dit vraiment rien à ce sujet. Il dit dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Donc, nous savons que dans l'Église primitive, les démons et Satan venaient et tentaient d'infiltrer l'Église avec leurs mensonges. Et c'était important pour l'Église de discerner entre le véritable porte-parole de Dieu et un démon. Maintenant, rappelez-vous, ils n'ont pas encore le texte des Écritures dans leurs mains. Il était encore en cours. Donc, il n'avait pas de révélation complète vers laquelle il pouvait se tourner pour tester telle ou telle chose. Alors, comment savait-il qui il fallait croire? Comment savait-il qui parlait réellement pour Dieu? Eh bien, il y en avait dans l'Église qui avaient le don de discernement. Cela peut-être fonctionnait de manière très spirituelle, non seulement d'une manière terrestre, mais d'une manière très surnaturelle. Dieu leur a donné le discernement de savoir s'il s'agissait d'un esprit démoniaque. Ils ont peut-être eu cette capacité, parce que nous savons, par exemple, qu'une femme est descendue, là où étaient Paul et Silas. Vous vous souvenez, dans Actes 16, cette femme a dit de Paul et de Silas ces mots très familiers. « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Est-ce que c'était vrai? Absolument. Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu Très-Haut. Et ils nous montraient la voie du salut. C'était absolument vrai. Mais Paul savait que cela venait d'un esprit démoniaque qui vivait dans cette fille. Et rappelez-vous, après l'avoir écouté pendant un moment, il a chassé le démon parce qu'il savait avec quelle subtilité un esprit démoniaque disait la vérité afin que les gens embrassent cette fille. Une fois qu'ils l'ont embrassée, comme quelqu'un qui a répondu à la vérité, croyant qu'elle parlait la vérité de Dieu, elle leur dirait des mensonges, et ils les recevraient involontairement. Il fallait donc que Paul, par la grâce de Dieu, ait du discernement pour savoir ce qui se passait réellement. Dans l'Église primitive, Dieu a donné la possibilité de discerner à la fois la vérité de l'erreur et un véritable esprit d'un esprit faux. Ils étaient des chiens de garde, une patrouille, un garde, une sentinelle de l'Église. Maintenant, voilà la question. Ce don existe-t-il encore, ou était-ce seulement pour cette époque? Bien qu'il n'y ait rien dans les Écritures pour indiquer qu'il a cessé son existence, il n'y a rien du tout à ce sujet. Nous n'avons aucune raison d'assumer, alors, qu'elle a cessé. Je me sens à l'aise en disant que je n'ai aucun souci à laisser le don continuer à exister dans l'Église et à prendre un autre mode opérationnel pour fonctionner de manière différente. Aujourd'hui, cela peut être encore utilisé dans la vie de certaines personnes pour protéger l'Église de l'erreur. Il y a des gens dans l'Église qui, grâce à Dieu, ont la possibilité de discerner. Ils sont doués pour diriger l'Église en distinguant la vérité de l'erreur. Nous pourrions même les appeler les théologiens. Nous pourrions les appeler les érudits de la Bible, en général. Les gens qui arrivent et qui veulent réfléchir de manière critique, analytique, soigneusement, et même historiquement, et savoir d'où vient l'erreur, et après peuvent dire « Voici une bonne compréhension de cela. Ils deviennent les gardiens de l'Église. Nous les mettons dans des séminaires et nous envoyons des jeunes hommes étudier chez eux. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à discerner, en apprenant comment ces hommes discernent. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise en l'appelant le don du discernement des esprits. Mais il est évident pour moi que Dieu a mis dans l'Église des hommes qui sont spécialement dotés pour être un modèle de discernement que nous pourrions suivre. Je lis des livres chaque fois qu'il y a des problèmes auxquels je veux faire face. Il y a certains auteurs que je connais qui ont écrit dans ce domaine, et je veux savoir ce qu'ils disent, car ils m'aident à discerner la clarté avec laquelle ils sont capables de discerner certains domaines de la vérité. Les faux prophètes sont partout aujourd'hui, dans tous les lieux. Des chevaux de Troie sont emmenés dans l'Église tous les jours. Et il y a des gens qui, grâce à Dieu, sont doués pour démasquer ces faux prophètes, pour discerner ces choses. Je me souviens, quand je grandissais et que l'Église faisait réellement un travail formidable d'attaque aux sectes, comme celle des Mormons, des Témoins de Jéhovah et diverses autres sectes, il y avait une prolifération d'écritures sur les sectes par des gens qui étaient évidemment dans le corps du Christ pour aider les autres à penser de manière critique et claire sur l'erreur de ces groupes particuliers. Donc, il y a des gens qui sont prêts à démasquer les faux prophètes. Vous devez apprendre d'eux, que vous soyez assis sous leur enseignement, assis sous leur prédication, ou que vous lisiez leurs livres, ou que vous les connaissiez personnellement. Ils sont aujourd'hui dans l'Église pour identifier le démonisme, peut-être pour identifier la charité, certainement pour identifier l'erreur dans la doctrine. Ce sont des gardiens de l'Église. Apprenez grâce à eux. Quatrièmement, la prochaine étape. Vous commencez par le désir. Vous allez vers la prière. Vous apprenez de ceux qui ont un discernement et sont doués dans ce domaine. Quatrièmement, suivez le schéma de la maturité. Restez sur le modèle de la maturité. Les chrétiens d'âge mûr peuvent discerner. Ils ont leur sens exercé pour discerner le bien et le mal, selon Hébreux 5. Les personnes matures ont du discernement. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Éphésiens 4. afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Les enfants sont totalement sans discernement. En fait, c'est un grand défi d'apprendre un enfant de discerner, n'est-ce pas? Cela prend des années. Vous le faites continuellement, même si vos enfants sont adolescents. Vous essayez encore de leur apprendre. Attendez une minute, vous me racontez cela? Prenons un moment pour réfléchir un peu. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Non? Permettez-moi de vous aider. Permettez-moi de vous aider à discerner cela. Tout cela fait partie de l'éducation des enfants, n'est-ce pas? Élever un enfant sage, c'est un processus. La même chose est vraie spirituellement. Vous n'allez pas vous coucher une nuit en disant « Seigneur, aide-moi à discerner » et vous réveiller le matin « Ça y est, je discerne ». Non, c'est un processus. Cela signifie que vous suivez le chemin de la maturité. Comment devenir mature? Comme le bébé qui désire le lait pur de la parole, vous pouvez partir de là. 1 Pierre 2, verset 2. Vous grandissez en maturité par l'application de la parole. Vous grandissez en maturité par des essais et des tests. Après avoir souffert un certain temps, le Seigneur vous rendra parfait. Il y a donc un processus. Suivez le chemin de la maturité. N'acceptez pas votre état actuel. Poursuivez la croissance. Cinquièmement, dépendez de l'Esprit Saint. Dépendez du Saint-Esprit. Vous devez marcher dans l'Esprit. Vous devez être rempli de l'Esprit, parce que l'Esprit est le véritable discernant. C'est celui dont Jésus parle dans Jean 16 au verset 13, qui vous conduira à toute la vérité. C'est son rôle. C'est le véritable discernant. 1 Corinthiens 2, verset 16 dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Vous avez l'Esprit de Dieu. Donc vous avez l'Esprit du Christ. » Quelle déclaration! 1 Jean 2, verset 20 et 27 « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dépendez de l'Esprit de Dieu. Comme vous êtes remplis de l'Esprit, que vous marchez selon l'Esprit, obéissant à Dieu, faisant face au péché dans votre vie, en le confessant, en vivant une vie pure et sainte, cédant au contrôle de l'Esprit de Dieu à travers la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu fera de vous une personne douée de discernement. Ensuite, enfin, et surtout très important, étudiez avec diligence les Écritures. Étudiez régulièrement les Écritures. Vous n'allez pas discerner, peu importe combien vous le désirez, peu importe combien vous priez à ce sujet, peu importe votre degré de respect, peu importe si vous suivez l'enseignement d'une personne douée de discernement. Vous ne serez pas en mesure de discerner, peu importe la maturité que vous désirez avoir, et peu importe combien vous dépendez du Saint-Esprit, à moins d'étudier avec diligence la parole de Dieu. C'est là que vous apprenez les principes de discernement. Parce que c'est là que vous apprendrez la vérité. Rappelez-vous la noblesse de l'église de Bérée, pour toute nouvelle dans la foi. Mais dans Actes 17, verset 11, elle dit « Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne savaient pas grand-chose, mais ils savaient ce qu'ils avaient à regarder, et ils ont vérifié dans l'Ancien Testament, pour voir si les choses étaient ainsi. » Le discernement ne fleurit que dans un environnement d'études fidèles de la Bible. Dites-le encore. Le discernement ne fleurit que seulement dans un environnement d'études fidèles de la Bible. C'est pourquoi dans Acte 20, quand Paul était tellement inquiet pour les anciens d'Éphèse, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Les loups pervers vont te déchirer. Les chevaux de Troie vont venir. L'ennemi va s'infiltrer. Vous allez faire des erreurs. » Vos propres hommes pervers se lèveront. Ils vont vous égarer. Vous allez avoir un chaos doctrinal, une confusion doctrinale. Et ainsi je vous recommande la parole de sa grâce qui peut vous construire. La parole, la parole. Regardez avec moi 2 Timothée 2, verset 15, juste pour toucher ce verset dans sa signification. Maintenant, vous devez pouvoir distinguer la fin du verset 15 entre le mot « vérité » et le bavardage vide. Le bavardage du monde qui mène à l'impiété. C'est important. Vous devez pouvoir distinguer entre la parole de la vérité, comme nous l'avons dit la dernière fois, et les choses stupides et folles qui viennent et disent « La résurrection a déjà eu lieu » et qui détruisent la foi de certains. Vous devez pouvoir distinguer la vérité de l'erreur. Voici comment. Soyez diligent. C'est l'image d'un travailleur qui donne le maximum d'efforts et d'excellence dans son travail.
Pour être approuvé par Dieu.
Cela signifie littéralement « se tenir à côté de Dieu, comme digne de sa compagnie ». Si je vais me tenir à côté de Dieu et dire « Je suis digne d'être à tes côtés, Seigneur, parce que toi et moi croyons la même chose », il faudra beaucoup d'efforts si je veux être approuvé par Dieu. Ensuite, il dit « En tant que travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte ». Le mot « honte » est le mot « clé ». Vous devriez avoir honte de la faible qualité du travail effectué dans la parole, si c'est un effort déshonorant. Vous voulez pouvoir vous tenir à côté du Seigneur en sa présence et dire « Seigneur, j'ai prêché exactement ce que tu as écrit dans la parole. J'étais fidèle à cela. Je l'ai étudié avec diligence, afin de pouvoir la représenter fidèlement. Où voulez-vous y arriver dans quelque temps et l'entendre te dire « J'ai honte de toi. J'ai honte de la mauvaise manière et de la mauvaise façon dont tu as répondu à ma vérité. J'ai honte de ton incapacité à distinguer la vérité des bavardages mondains et vides qui mènent à l'impiété et se répandent comme une gangrène. J'ai honte de ton incapacité à identifier les faux leaders qui se sont égarés de la vérité et perturbé la foi d'autrui. J'ai honte de la façon dont tu as traité ma vérité. Écoutez, si nous voulons distinguer à juste titre la vérité, nous devons être très intelligents dans l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci pour cela. C'est ce qui rend l'homme de Dieu parfait, bien équipé à toutes les bonnes œuvres, dit Paul plus tard. Donc, si vous devez discerner, cela exige le désir, la prière, l'exemple, la maturité, l'Esprit Saint, l'étude diligente, la connaissance de la parole. Et que se passera-t-il? Ce genre d'approche, si nous définissons notre chemin en suivant ces étapes, va renforcer la conviction doctrinale de l'Église. Cela nous rendra antithétiques, absolus et pas relatifs. Il nous appellera à la discipline de l'Église. Cela nous empêchera de faire des compromis stupides avec le monde. Cela nous fera de bons interprètes de l'Écriture. Cela va nous faire mûrir. Cela va honorer Dieu. Et puis, nous serons une Église exigeante. Permettez-moi de fermer avec Philippiens 1, un texte très important. Ouvrez vos Bibles à Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Arrêtez-vous là. Nous ne sommes pas contre l'amour. Nous ne voulons pas être méchants. Je veux que votre amour abonde de plus en plus. Je veux plus d'amour envers les autres, plus d'amour. Et il parle de l'amour pour les autres. Il dit, « Je veux que votre amour abonde. Je ne veux pas que vous soyez considérés comme sans amour. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Vous voyez cela. Vous ne pouvez pas utiliser l'amour comme un principe de l'herméneutique. Vous ne pouvez pas vous servir de l'amour comme principe d'interprétation. Vous voulez avoir un amour plus grand, mais cet amour est contenu dans une connaissance réelle ou une connaissance de la réalité et du discernement. Pour le discernement des choses les meilleures, verset 10. Vous serez purs, remplis du fruit de la justice, verset 11. Maintenant, nous voulons être aimants, mais d'un amour qui abonde dans la vraie connaissance de tout discernement, approuvant ce qui est excellent, étant rempli du fruit de la justice. Et dans ces deux versets, 10 et 11, il dit « Et cela montrera ta gloire à venir. C'est l'appel de Dieu au discernement. » Baissons la tête ensemble pour prier. Seigneur, nous avons été bénis ces jours-ci, en considérant ce sujet important, et nous demandons que tu nous aides à comprendre, pour savoir pourquoi il y a un tel manque de discernement. Comprendre ce qu'est le discernement, et savoir maintenant comment être et continuer à être une personne douée de discernement. Père, aide-nous à garder la vérité, à garder le trésor, à le transmettre purement à nos enfants et à une autre génération. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être victime des chevaux de Troie qui sont entrés dans l'Église en tant que dons, mais qui ont libéré des armées ennemies pour nous déchirer. Aide-nous à examiner tout à la lumière des Écritures, à les utiliser comme une ligne de plomb, comme l'a dit Amos, par lequel nous mesurons la vérité. Aide-nous à ne pas avoir honte un jour en nous tenant à tes côtés pour dire « Je l'ai prêché du mieux possible, exactement comme tu l'as voulu. J'étais fidèle dans mon discernement. » Accorde-nous cette capacité à protéger la sainteté et la justice, l'excellence de ton nom et ton Église pour l'amour de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.